Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite à un petit problème technique, le début de l'émission est indisponible. Toute l'équipe de Spam s'excuse pour ce petit désagrément et on vous propose de reprendre cette émission, dédiée à l'économie de l'attention, à partir de la troisième actualité de Théo. Le très haut débit arrive à Solgé.
La commune au sud de Montmorillon est raccordée au très haut débit depuis le 4 novembre. Cette réalisation s'inscrit dans le schéma directeur d'aménagement numérique de la Vienne. Ce dernier est porté par le conseil départemental avec le soutien de l'Europe, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté de Vienne et Gartempe. L'ensemble de ce programme vise un raccordement au très haut débit de 95% du territoire de la Vienne pour l'horizon 2020. Il rassemble un budget total de 55 millions d'euros. Selon le conseil départemental, l'accès au très haut débit est un enjeu majeur pour les villes moyennes et les villages. En effet, il s'agit d'un facteur important pour l'attractivité de ces communes, et ce, notamment auprès des jeunes actifs.
Alors, moi j'aimerais qu'on revienne sur Google qui rajoute la publicité sur YouTube. Parce que ça me fait un peu sourire que Google rajoute de la publicité, mais la monétisation, ça a l'air d'être encore un problème pour les vidéastes. Donc, pourquoi ? Comment on rajoute de la publicité si on monétise moins les vidéastes, les créateurs ?
Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, si quand un youtubeur est démonétisé et qu'il a quand même de la pub, je sais pas trop comment ça se passe, mais là en gros c'est même avant que tu ailles sur une vidéo, c'est genre la première vidéo que ça te propose quand tu fais une recherche, c'est une pub.
Ah, c'est une publicité, ok. Ouais. Lucas ?
Justement à propos du prix des publicités, il y a depuis justement ce système qui est arrivé sur YouTube, donc YouTube ça date de 2005, je crois qu'il y a des pubs sur YouTube à peu près depuis cette époque-là parce que c'est leur business model. Le prix de la pub a depuis toujours baissé. Il y a toujours plus de pubs, mais il faut comprendre que parallèlement à ça, les pubs rapportent toujours moins. C'est un phénomène, je ne sais pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants, mais le fait est que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des créateurs de contenu se plaindre que voilà, les revenus publicitaires ne font que baisser d'année en année.
On peut rappeler que les premières baisses de revenus publicitaires, je crois qu'elles ont été... Je crois que c'était YouTube qui avait réagi à une vidéo de PewDiePie, si je dis pas de bêtises, je sais pas si Théo, tu pourrais me confirmer ça.
Il me semble que le PewDiePie avait, oui, été striké à ce niveau-là quand il avait été accusé d'être, alors je sais pas exactement si c'est ça, mais d'être un peu d'avoir des propos nazis ou un truc comme ça,
antisémite,
et justement ça lui avait valu d'être démonétisé, mais pendant un temps, il me semble pas.
Ouais, mais
ça c'est
une question de contenu, c'est pas vraiment une question de systématiquement est-ce que les pubs valent plus ou moins.
Oui, mais c'est ouais. En fait c'est parce que ça avait touché le plus gros vidéaste de l'époque, tout le monde avait pris. On pourrait revenir aussi sur le pass numérique. Alors, moi, j'aimerais connaître la nature de ces formations.
Alors en gros le pass numérique, il s'agit en fait un peu comme des chèques vacances. En gros vous avez un carnet avec un certain nombre de passes numériques qui valent chacun 10 euros et ces 10 euros vous pouvez dépenser dans une formation pour le numérique. En gros, à chaque fois, si vous en avez 5, bah,
oui, non, c'est rigolo d'entendre ça parce qu'on a l'impression qu'on va se former avec des tickets de cantine, quoi. Enfin, c'est assez dommageable, surtout que c'est mon domaine professionnel et je me dis, bon, je n'ai pas trop envie d'être payé en ticket de cantine comme ça. Le souci dans ce genre d'initiative, c'est que là, voilà, on te dit, ouais, tu vas pouvoir te former grâce à une sorte de chèque dédié, mais après, quid du matériel, quoi. C'est-à-dire que tu as beau te former au numérique, si tu n'as pas le matériel à la maison, tu ne peux pas faire de mise en application. Donc, je pense qu'en termes d'impact, c'est limité, quoi.
Théo.
Et puis surtout, en fait, si on regarde la carte des endroits, notamment en Vienne ou en Nouvelle-Aquitaine, où c'est possible de dépenser ce pass numérique, on voit que par exemple Poitiers n'est pas possible. En fait, il y a pas d'endroit où vous pouvez les dépenser. Les plus proches, je sais plus exactement laquelle ville est la plus proche, mais ça joue entre La Rochelle et Angoulême. En gros, c'est l'endroit le plus proche où vous pouvez vous former avec ces passes.
Et tout le monde est éligible.
Alors, il faut les demander. Voilà. Et on peut, selon votre cas, on peut ou non vous les donner.
Denis ?
Oui, alors moi j'aimerais revenir sur Sogé. Je suis un petit peu choqué que Sogé reçoive l'internet à très haut débit quand une partie de Poitiers ne l'a pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi j'ai pas la fibre ?
Fallait déménager à Sogé, désolé.
Il voilà. Faut te plaindre au conseil départemental.
Mais j'appellerai monsieur le maire, hein, on en parlera.
Maintenant messieurs, il est temps de faire une petite mise à jour, claire, rapide et efficace. Florian, tu peux allumer Pulsaria car c'est à vous.
C'est parti.
Mise à jour en cours d'installation.
Bonjour et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous reconnecte avec le sujet de l'émission. Et comme je n'arrive pas à faire fonctionner cette fichue assistante vocale qui est Pulsaria, je suis de retour sur le plateau pour vous faire moi-même une présentation de la thématique du jour.
Oh, et quel est donc notre sujet aujourd'hui, humain ?
Non mais sérieusement Pulsaria, je te demande pas de nous faire la chronique en entier, mais tu pourrais au moins te tenir au courant du sujet, non ? Alexandre l'a même dit à l'instant.
Excusez-moi humain, mais pensez-vous vraiment que je sacrifie une heure de mon temps à écouter votre émission ? Franchement, je n'ai pas été programmé pour mentir, alors ne me forcez pas à répondre à cette question rhétorique.
Ouais, bah, visiblement, t'as pas été programmé pour grand-chose, je veux dire. Mais bon, bref, revenons à nos moutons électriques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'économie de l'attention.
Comment ça, économie de l'attention ? Vous êtes pingre jusqu'à mettre votre attention de côté.
Non, non, plus sérieux, on va pas parler d'économie dans ce sens, mais plutôt comme d'un modèle économique. Et dans ce modèle-là, la ressource rare qui fait l'objet de toutes les tentations, c'est bien notre attention. En d'autres termes, ce sont ce que nos confrères de TF1 appelaient des minutes de cerveau disponibles.
Je vois, mais que pouvez-vous acheter avec ce genre de ressources ?
Eh bien, en réalité, pas grand-chose. Mais cette attention peut être transformée en monnaie sonnante et trébuchante avec l'aide de quelques petites merveilles de notre société capitaliste. En tête de ces joyeusetés, je fais évidemment référence à la publicité.
Oh, je commence à voir l'intérêt de la chose.
Et malheureusement, tu n'es pas la seule à y voir un intérêt. Nos chers amis les GAFAM, dont on parlait la semaine dernière, se sont bien saisis de la chose et certains d'entre eux, comme Google et Facebook, basent leur fonctionnement sur des revenus issus de publicité. Car en effet, s'ils sont gratuits, cela ne veut pas dire que vous ne leur faites pas gagner de l'argent. D'ailleurs, comme le dit une célèbre phrase, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Par exemple, quand vous faites le tour de votre fil d'actualité sur Facebook et que des publications sponsorisées apparaissent à votre écran, alors ça veut dire que Mark Zuckerberg a vendu quelques secondes de votre temps d'attention à une entreprise pour que vous voyez ce qu'elle a à proposer, et tout cela sans que vous n'ayez pas vraiment demandé grand-chose.
Mais au final, quel est le problème humain ? Voir une publicité, ça ne vous coûte pas grand-chose.
C'est ce qu'on peut se dire, mais malheureusement, le système est un petit peu plus pervers que ça. Car en effet, pour nous faire regarder un maximum de publicités et nous pousser à adapter nos comportements à celles-ci, les sites peu scrupuleux peuvent, en quelque sorte, nous manipuler.
Ah, et quel... Mais au final, quel est le problème ?
Pulsaria, tu...
Ah, quel est donc notre sujet aujourd'hui, humain ?
Complètement buggé, cette Pulsaria, bon bref. Ça paraît bizarre, hein, les sites qui nous manipulent, mais il faut se rappeler que derrière chaque site internet, eh bien, il y a des designers qui ont les moyens et les connaissances pour nous manipuler. Le moyen le plus simple d'attirer notre attention sera par exemple de nous offrir des publicités ciblées qui ont plus de chances de nous intéresser. Pour faire ça, les sites internet recueillent les données personnelles qu'on laisse derrière nous, comme le contenu que l'on aime et que l'on partage, et les revendent à des entreprises afin d'identifier quel profil d'utilisateur nous avons. Et sur cette base, il devient facile de savoir ce qui pourrait nous intéresser et nous l'apporter sur un plateau d'argent un peu empoisonné. Alors avec l'évolution du web et nos usages, les méthodes pour nous manipuler évoluent. Aujourd'hui, on retrouve par exemple les dark patterns, qui sont des schémas considérés comme malveillants et qui tombent clairement sous le champ de la manipulation. Par exemple, les publicités peuvent être adaptées pour avoir l'air de faire partie un peu du contenu de la page, de nous sorte à faire un peu baisser la garde. On retrouve cela par exemple sur Instagram, où les contenus sponsorisés sont similaires en tout point au contenu que pourrait poster notre grand-mère en rentrant de vacances. Et on ne parle même pas des pratiques encore plus sournoises de placement de produits, où n'importe qui peut nous vendre n'importe quoi sans éveiller aucun soupçon. C'est bête, mais les sites internet rivalisent d'inventivité pour capter notre attention, et ce parfois sous couvert d'améliorer notre expérience utilisateur ou leur service. Cependant, il ne faut pas oublier que ces actions brassent de l'argent et parfois un peu à notre insu. Il est donc primordial d'être informé sur la question pour adapter nos usages, et je pense que c'est un peu l'objectif du jour dans Spam.
Très bien. Florian et Pulsaria, merci de nous avoir...
Pulsaria, je ne sais pas trop où elle est, là, je pense que... Mais bon.
En tout cas, merci de nous avoir posé les bases de ce concept un peu complexe. Et une fois de plus, dans cette émission, j'ai envie de faire l'avocat du diable parlant de manipulation et de publicité ciblée. La publicité ciblée, occidentaux, on voit ça comme quelque chose de pervers, de mal, mais... pourquoi ce serait le cas en fait ? Si pourquoi ce serait le cas que la publicité cible mes envies ? Oui, c'est ça, si ça m'aide dans mes achats de consommateurs. Quel est le problème, Théo ?
Alors, je vais pas répondre à ce problème, mais c'est vrai que il me semble que au Japon, justement, je pense que tu pensais à ça en faisant ta question. Et au Japon, ils apprécient énormément en fait que les publicités soient ciblées directement vers eux et que on leur présente directement des choses qui leur conviennent en fait, qu'on fasse une présélection pour eux.
Oui, c'est ça, totalement. Lucas ?
Peut-être parce que, justement, on nie de plus en plus la dimension, disons, de décision individuelle qui se cache derrière un acte de consommation. Je vais m'expliquer. Si jamais on vous propose, je ne sais pas moi, d'acheter une nouvelle paire de chaussures, avant même que vous ayez l'idée d'en acheter une, vous êtes passif, en fait, dans cette recherche. C'est peut-être ça qui est gênant quand on nous propose des choses avant même qu'on ait vraiment décidé de les chercher ou de chercher les avoir.
Denis ?
Moi, pour rebondir sur le comparo entre modèle occidental et modèle japonais, je pense qu'il y a aussi une culture du temps qui est différente. C'est-à-dire que dans le modèle occidental, on est certes parfois on aime bien qu'on nous apporte les choses sur un plateau d'argent, mais on aime bien aussi flâner et avoir cette espèce de temps libre où voilà, on prend le temps de décider des choses. Alors qu'au Japon, voilà, ils ont une culture très très comment dire, ils aiment bien justement l'économie de temps, le gain de temps absolu, optimal.
Mon collègue philosophe me contredira peut-être, mais j'ai l'impression que la question elle est presque d'ordre moral. Parce que si ces mécanismes étaient utilisés pour, je sais pas, pour autre chose que consommer, pour, disons, oui, surfer en ligne de manière éthique, de manière responsable, que penses-tu, Lucas ?
Mais alors, pour si la question, c'est la question morale, c'est-à-dire si on est capable, par exemple, d'anticiper vos désirs d'achat, qu'est-ce qui nous empêche d'anticiper, je sais moi, pas par exemple vos actes frauduleux ? Et je pense qu'ici, tous autour de la table, on a vu Minority Report, on a peut-être lu des livres de Kadic ou de Fahrenheit 451. Enfin voilà, c'est des choses qui font partie de notre bagage culturel aussi, ce genre de dystopie. Or, dans ce genre de dystopie, on voit bien que le problème de proposer des choses avant que les actes par des humains soient faits. On a, disons, tout ce bagage culturel qui nous permet aussi d'être critiques vis-à-vis de cette pratique. Et voilà, ça peut poser problème d'anticiper, de laisser la machine anticiper les choix des humains avant qu'ils soient réellement faits.
Eh bien, on va continuer d'attaquer et d'analyser un petit peu les mécanismes de l'économie de l'attention juste après les trompettes de Steve Watson. On va s'écouter Born to Boogie tout de suite sur Radio Pulsar. Thank you.
Si tu veux surfer sur Internet, suis-moi, on va t'équiper.
Vous êtes toujours à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar et on vient de s'écouter Steve Watson, Born to Boogie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'économie de l'attention. Pour mieux se rendre compte des mécanismes et autres rouages exercés par les marchands de l'attention, je vous propose d'illustrer tout ça par un nouvel internaute fictif, Marc. Mais avant ça, si vous nous écoutez en voiture... C'est bon, j'ai repris votre attention. Bref, comme à son habitude, Marc se lève à 8h avec l'alarme de son téléphone. Après avoir éteint l'insupportable... Il remarque une petite pastille rouge sur l'icône de Twitter, une autre sur celle de Facebook et même une sur celle de LinkedIn. C'est alors que la tournée des réseaux commence. Sur Facebook, la notification venait de sa meilleure amie qui l'a taguée sur une photo de la page « C'est trop nous en soirée ». Maintenant que la notification l'a ramenée sur la plateforme du grand F bleu, autant rester. Alors Marc scroll, scroll et scroll dans son fil de l'actualité et « Oh, c'est trop nous en soirée, Jérémy !» Emoji pleure de rire. Commenta-t-il sur une vidéo qui passait par là. 8h07, c'est au tour de Twitter. Alors comme ça, Twitter, on se dit, ça va vite, on n'a que 280 caractères maximum, mais entre les notifications et le scroll interminable de ses 350 abonnements, le temps s'est bien écoulé. Il est 8h15, ça y est, les probabilités que Marc arrive en retard à la fac ont explosé. Ce rituel de la notification, il va recommencer plusieurs fois dans la journée. Le soir, au moment d'écrire son émission pour Radio Pulsar, Alexandre Marc va être interrompu, ou plutôt son attention va être absorbée comme captée. Alors mes chers collègues de Spam, je pense qu'avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, on peut se mettre d'accord sur le fait que le modèle économique des grandes plateformes du web repose sur celui de l'économie de l'attention. Surprise, c'est le thème d'aujourd'hui. Du temps, on en perd, beaucoup. Alors comment ces plateformes font-elles? Pourquoi je ne suis pas maître de mon attention? Quelles sont les menaces pour notre productivité ou même notre santé? Lucas,
ouais, ce que tu as bien montré par ta petite fiction, ton petit édito là, c'est justement que comment est-ce que notre attention elle est accaparée, ça pèse en fait sur nos activités du quotidien d'une certaine façon, d'une façon légère, d'une façon presque indolore si on considère qu'une seule notification ou qu'une seule fois où on traîne sur Twitter ou une connerie comme ça, mais à terme, par l'accumulation de toutes ces petits détournements d'attention, à la fin, finalement, combien de temps est-ce qu'on a passé à flâner sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube alors qu'on n'avait pas vraiment prévu de le faire?
Florian?
Oui, je retweet ce que dit Lucas. Non, c'est vrai que c'est impressionnant et d'autant plus que maintenant, on le sait, hein, à chaque fois qu'on va remonter donc, le petit mécanisme pour mettre à jour le fil d'actualité, il y a du contenu à l'infini. Vraiment, à l'infini, vous pouvez passer votre journée à juste mettre à jour et découvrir une nouvelle pépite, sans doute, sur comment vous êtes en soirée. ça, c'est quelque chose qui nous fait perdre énormément de temps et si on ne s'en rend pas compte, faudrait compter, en fait. Je crois que sur les iPhones, il y a un truc comme ça pour compter le temps d'écran allumé ou
oui, il y a un module Modilla aussi qui permet de faire ça. J'ai plus le nom en tête, mais je sais que ça existe.
Faites-le. Franchement, faites-le pour l'expérience et vous allez voir, ça fait peur, je pense.
Denis ?
Ouais, t'as tweeté super vite, Florian. Enfin, t'es assogé, non, c'est ça ? C'est ce qui me semblait. Non, mais par contre, ouais, c'est très dolore. Au boulot, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que tu te fais une pause de 5 minutes, mais en fait, c'est que tu passes d'un écran à un autre parce que t'es sur, admettons, le boulot de bureau type. Toute la journée, tu vas être devant ton écran à produire des livrables et puis tu fais une pause de 5 minutes sur ton téléphone et en fait, ça se transforme très vite en 7 minutes. En tout cas, il y a des études qui montrent que quand tu fais une pause, il vaut mieux faire une vraie pause, en faire moins dans la journée, mais faire une vraie pause, mais sans écran.
Mais plus que ça, c'est presque une rééconomie qui se situe là-dessus parce que je sais qu'il existe des applications et comme l'a souligné Florian, c'est même intégré dans des téléphones pour rester concentré. C'est-à-dire que l'iPhone, il nous prévient, mais... Il s'avère qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu une application qui s'appelait Stay Focus et pour ne pas, pour rester attentif.
Bah, pour suivre ce que tu disais, il y a un traitement de texte qui existe, mais pareil, donc j'ai oublié le nom. Où en fait, avant une séance de travail, tu mets combien de mots tu veux faire ou combien de temps est-ce que tu veux rester bloqué sur ton traitement de texte et ton ordinateur sera bloqué. Tu ne pourras être que sur ce traitement de texte pendant n temps ou pour n mots. Mais pour revenir à ce qu'on disait vis-à-vis de l'utilisation justement de ces réseaux et de ces notifications au travail, c'est presque du vampirisme finalement d'une certaine manière. Où en fait, ces services-là viennent vampiriser notre attention. Et au final, font aussi peut-être perdre notre qualité de travail. Pour eux justement gagner à terme de l'argent et de la visibilité.
Denis ?
Oui, ton application, ça a fonctionné là, Stay Focused
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionnait sur un modèle de. C'était un peu ludifié. C'est-à-dire que, en gros, on a un jardin. On dit, on veut être focus pendant, 20 minutes, 30 minutes. Et si on revient sur notre téléphone, la plante meurt. Et on le voit dans notre jardin.
L'attachement émotionnel à la plante.
On le voit dans notre jardin. Et on peut pas l'enlever.
Ah ouais.
Ce qui fait que.
Par contre, l'histoire du traitement de texte, là, c'est relou, parce que si jamais tu te gourres et que tu mets 6 heures au lieu de 6 minutes, c'est foutu. Hein.
Ouais, je pense que tu peux toujours kill le processus, ou je sais pas.
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de l'économie de l'attention, surtout sur le journalisme, parce que l'économie de l'attention, en fait, c'est pas une invention qui date du web, justement. C'est Benjamin Day, un imprimeur, donc imprimé du journal. Avant les news, c'était quelque chose de... Ça concernait beaucoup la politique, la finance. Et lui, il a eu l'idée de réduire le prix du journal et de couvrir d'autres choses en 1830, comme des faits divers, des crimes, la vie privée de personnalités. Ce qui fait que le journal se vendrait vraiment, vraiment très bien. Et c'est un peu ce qu'on voit sur nos plateformes aujourd'hui. On tombe sur tout et n'importe quoi, on commente sur tout et n'importe quoi, et voilà quoi, comment on s'en sort, Denis, t'as peut-être la réponse ?
Non, mais je me disais, mais je le connais ce gars-là, c'est même lui qui a parlé de l'arrivée de l'eau courante à Sauget en 1830. Impressionnant.
On a parlé aussi des pubs Google en début d'émission. Donc on peut citer Google en 2003 avec le programme AdSense. Donc c'est l'apparition des premières pubs contextuelles et pertinentes. Dans une conférence, le PDG de Google dit que l'idée, c'est de rendre nos pubs utiles et pas juste ennuyeuses. Est-ce que vous avez l'impression que vos pubs ciblées sont utiles ? Florian ?
Pour Google, clairement. je pense. Non, mais après, honnêtement, je pense que je clique sur les annonces. Donc Google, c'est surtout comme ça que ça marche. Les pubs, c'est les annonces, les trucs qui arrivent en premier dans les recherches. Je pense que je clique sur les annonces des fois quand c'est vraiment le site que je cherchais, quoi. Enfin, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça soit l'annonce ou le premier lien qui est juste en dessous des annonces qui est exactement le même site, ça me fait gagner du temps, je pense pas. Donc,
Théo ?
Mais en vrai, Google veut que ce soit des pubs utiles, en fait, parce que si ce sont des pubs sur lesquelles personne ne clique, après, au niveau référencement, donc, est-ce qu'elles vont ressortir dans les premières ou non ? Elles se font, elles ont une moins bonne note et du coup, elles apparaissent encore plus tard. Donc oui, Google veut des pubs utiles.
Cela dit, nous, tout ce qu'on trouve comme pub qui interfère dans nos recherches, vous savez, les bannières, les pop-up, tout ce genre de trucs-là, si jamais il y en a, c'est que ça marche nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a une part, même très infime, qui se font avoir. Nous, on ne se fait peut-être pas forcément avoir parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît bien ces outils, parce qu'on est né avec et parce qu'on a... Voilà, on est habitué à savoir que voilà, faut pas cliquer sur le pop-up. Mais, mais je pense qu'aussi, il y a toute une partie de la population pour qui c'est pas tout à fait au clair, ce truc-là, et que c'est peut-être aussi si y en a, c'est que ça marche aussi forcément un peu.
Denis ?
Ouais, non, mais moi je me gosse un peu de ça, je triche du coup, j'utilise pas mal AdBlock, sauf sur les sites que j'aime beaucoup et souvent pour lesquels je paye, tu vois, des sites d'info, des sites peu importe. Mais du coup c'est rigolo parce que quand t'as une pub, ça peut te proposer, tu vois, moi qui me compagne, ça peut me proposer des rencontres de filles de pas du tout de mon âge, pas du tout dans ma région, et puis de toute façon ça m'intéresse pas du tout parce que j'ai déjà quelqu'un, tu vois. Ça c'est génial.
Et Denis, tu mets aussi le doigt sur un truc qui est important, c'est en fait la question du modèle économique. C'est qu'en général, je sais pas moi, un site d'info qui va être payant, en général, il n'y a pas de pub, tout simplement. Et ici, notre attention, elle n'est pas détournée, elle n'est rien du tout. C'est juste, on paye pour ce qu'on a. Quand il y a des pubs sur un site gratuit, on paye indirectement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nous le produit. Notre attention, elle est captée par ces pubs et c'est ce qui fait fonctionner le site. Donc après, c'est juste un choix aussi de modèle économique. Et qu'est-ce qu'on a envie de soutenir pour la presse écrite, je trouve que c'est vraiment révélateur.
Florian ?
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que cette histoire de pop-up, je pense que c'est quelque chose qui va être amené à disparaître, notamment parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'expérience utilisateur. Il faut faire un site où on a une expérience agréable, on est content d'aller sur site, on a envie d'y revenir. Et donc les pubs, elles prennent une forme un peu plus insidieuse, comme je le disais dans ma chronique. On essaie de faire un truc qui passe inaperçu, en fait. Et c'est là où ça devient ultra sournois, c'est que quelqu'un, un public qui n'est pas averti, il ne se rend pas compte sur Instagram. Moi, je suis désolé, mais le nombre de fois où j'ai liké un truc et je me suis dit, mais je suis pas ce gars, en fait, c'est qui ce gars ? Il est écrit sponsorisé en tout petit, quoi. Mmh. Et on se dit, mais en fait, la pub est partout et elle passe tellement inaperçue que c'est devenu ultra sournois, quoi.
Et quand tu dis que la pub passe inaperçue, moi, je pense tout de suite au brain content de sites comme Combini. Et c'est un danger, je pense que c'est un danger pour l'utilisateur de ne pas reconnaître la pub du contenu, enfin du vrai contenu, entre guillemets. Denis ?
Oui, non, j'allais dire, pour ça, normalement, il y a un cadre légal, effectivement, il est respecté, mais les publicitaires cherchent toujours des moyens de contourner tout ça. Donc, si sur Instagram, ta pub, on dirait une publication classique, bon, il y a quand même le petit truc sponsorisé, en fait, c'est le à minima. Pareil, sur les sites qui peuvent avoir un penchant payant, bon, tu payes, t'as plus de pub, t'as plus rien. Par contre, si tu gardes la version gratuite, tu vas avoir des sponsors. Voilà. Après, dans les cas où t'as une version payante, je trouve que c'est souvent un petit peu mieux mis en avant parce que, comme ils veulent t'inciter aussi à payer pour avoir accès à l'intégralité du contenu.
Évidemment, tout ça, ça pose aussi la question de la collecte de données qui va nous suivre, je pense, tout au long de l'année pour cibler les publicités. Donc, on en parlait avec la chronique de Théo et celle de Florian. Je pense notamment à YouTube. Dans une interview d'un membre de l'équipe de recherche et développement par la chaîne YouTube Creator Insider, on y apprend que chaque jour, 80 milliards de bribes d'infos sont collectées par la plateforme pour l'optimiser et pour cibler. Et pour cibler la publicité. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres, tout simplement ? Pas de...
on est plus ou moins au courant que ces réseaux-là sont des machines de surveillance de masse. C'est juste que, pour l'instant, enfin, ce qu'ils en font de ces informations, c'est juste une utilisation publicitaire et mercantile, bon, pourquoi pas. Enfin, finalement, ça nuit très indirectement et dans l'absolu même pas trop. Mais c'est toujours inquiétant de voir certaines entreprises ou certaines personnes morales emmagasiner comme ça des données absolument colossales de données.
Théo ?
Ouais, et puis surtout le stockage de ces données, à mon avis, ça doit être assez coûteux à la fois en énergie et en serveur, quoi, concrètement.
Oui, et en fait, l'économie de l'attention nous donne quelque part une architecture du web conçue sur qui montre la place des neurosciences, finalement. On a plusieurs conséquences à tout ça. On a parlé un petit peu du brain content, mais pour aller plus loin, même le clickbait, tout simplement.
Tu peux expliquer ce que c'est le brain content, parce que je connais
pas. Alors, le brain content, en fait, c'est du contenu conçu comme du vrai contenu, mais pour une marque. C'est une marque qui va payer du contenu de façon à ce qu'il soit produit comme du vrai contenu.
Comme un faux article.
Un faux article. Combini fait vachement
ça. Netflix, Coca-Cola, sont la plupart du temps.
Par exemple, si tu trouves, par exemple, sur Combini, un article qui est dithyrambique sur la dernière série de Netflix, attends-toi à ce que ce soit un truc, en fait, qui a été plus ou moins écrit par Netflix et que Combini diffuse.
Un publi-reportage.
Un publi-reportage, exactement.
Denis. Oui, dans ces cas-là, il y a aussi souvent la mention contenu sponsorisé.
On rate des fois ce truc-là.
Pas toujours en évidence.
C'est des malins.
C'est pas toujours évident, et voilà, des fois, on rate, on se fait voir, c'est normal, c'est humain.
D'autant plus que souvent, ces contenus-là, par exemple, sont partagés sur Facebook juste avec le titre. Quoi. Les gens suffisent du titre et ce qu'il y a dans la description du post, et puis ils ne vont pas lire l'article. Donc, c'est des choses qui restent inaperçues et qui font énormément de com à la fois à la marque qui paye et puis aux médias qui les rediffusent. Quoi.
Oui, donc du coup là où j'en étais, c'est que de l'économie de l'attention se dessine une architecture du web, donc clickbait, brain content, mais aussi... les fake news, finalement, parce que les fake news, c'est quelque chose de très sensationnel, qui fait cliquer, qui attire notre attention. On peut aussi évoquer tout ce qui est bulle informationnelle. Bref, je ne sais pas ce que vous pensez de cette architecture qui se dessine de l'économie de l'attention. C'est quelque chose que j'ai conclu de mes recherches. Je ne sais pas si
c'est le cas. Ça parle aussi, finalement, un peu de l'architecture du web global. Et si on la prend, par exemple, dans son historicité, aujourd'hui, le web, c'est quasiment, ça peut se résumer peut-être à une dizaine de sites. Qui finalement communiquent les uns avec les autres, qui font référence les uns entre les autres, mais finalement ça tourne un petit peu en vase clos, alors que finalement, est-ce que la promesse du web au début des années 2000, c'était pas justement des milliards de sites possibles qui communiquent par lien hypertexte? C'est pas du tout la même philosophie. Aujourd'hui on tourne un peu en boucle, et justement ce qui est encore plus ironique là-dedans, c'est qu'est-ce qui nous fait tourner en boucle là-dedans? Des notifications. On nous invite à liker la page de machin qui va nous emmener vers un compte Twitter qui va poster des captures de Reddit qui viennent de posts Instagram. c'est typiquement un serpent infini qui se mord la queue. Quoi.
Denis, ce qui est dommageable, c'est que derrière, tu as aussi des gens qui se font connaître, tu vois, on parle des réseaux sociaux à travers ça, donc, où ça va engendrer effectivement de la notification, et donc on va te bouffer un petit peu d'attention. Des gens qui sont indépendants, qui vont créer à partir de trois fois rien, des choses pertinentes, des choses concrètes, et pas forcément des gros contenus publicitaires dégueulasses.
Théo.
Et même ouais, pour continuer sur ces contenus et pour revenir un peu sur YouTube, on voit que par exemple quand un algorithme comme celui de YouTube est très perfectionné pour savoir ce que le public veut, ça fait que les personnes qui produisent des contenus vont produire des contenus qui sont assez similaires pour convaincre, pour pouvoir optimiser ces algorithmes-là justement.
Avant de philosopher sur ce sujet avec Lucas, on va continuer de groover sur les ondes de Pulsar avec le morceau Neptune de Lucien and Kimono Orchestra.
Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé.
Et on vient de s'écouter le titre Neptune de Lucien and Kimono Orchestra. Mais maintenant, il va vous parler d'économie, captologie, philosophie. C'est l'heure de la chronique de Lucas. Ce soir avec toi, Lucas, on va en apprendre un peu plus sur la dimension économique, justement, de cette économie de l'attention.
En effet, je vais m'intéresser aujourd'hui à cette question de l'économie de l'attention en considérant la question économique et plus que la question de l'attention. Même si le domaine des neurosciences est en plein essor et que toutes les questions liées à la concentration et à l'attention sont un des secteurs de recherche les plus porteurs du moment, il faut selon moi considérer son pendant économique pour bien saisir en quoi cette nouvelle forme d'économie pose problème.
Mais c'est quoi le rapport entre l'économie classique et cette nouvelle économie ? Elles portent le même nom, mais elles n'ont pas grand-chose à voir, quoi.
Oui, alors oui et non, pour percevoir leurs nuances, on va devoir s'intéresser à la notion de valeur. Dans l'économie classique, la valeur, elle est créée par un travailleur qui va utiliser un outil de travail qui va lui appartenir ou non pour transformer une chose ou rendre un service. En faisant ça, il va apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée et il va être ensuite possible de vendre ou d'échanger la chose produite ou le service rendu contre d'autres biens et services. Grosso modo, très grosso modo, c'est comme ça que théoriquement notre économie fonctionne. Seulement, ce modèle, il fonctionne que si la production est identique à la demande. Or, dans notre système actuel, la demande est très largement inférieure à la production dans la plupart des domaines. Et cela pose donc problème. Comment réussir à vendre sa production alors que la demande est limitée ? C'est ici que le concept de publicité rentre en jeu. Dans une économie de marché où l'offre est abondante et donc dévalorisée, la ressource rare et chère devient le temps, c'est-à-dire l'attention des consommateurs qui vont acheter des produits. Dans ce monde, l'attention des gens devient de l'argent par l'intermédiaire de la publicité.
Bon, c'est très bien tout ça, mais tout à l'heure tu opposais l'économie classique avec la nouvelle économie qui devrait se composer de l'attention. Tu nous aurais menti ?
Un petit peu. Pour moi, ça n'a pas trop de sens de les opposer. Les pratiques déloyales qu'utilisent Facebook, Instagram ou Twitter pour conserver notre attention ne sont que la continuité des pratiques déloyales utilisées depuis 80 ans par les publicitaires classiques. Si l'efficacité de cette influence est toute nouvelle grâce aux nouvelles technologies et à la possibilité de gérer un nombre colossal de données, le principe en revanche est le même. Il ne s'agit en fin de compte que d'une affaire de temps de cerveau disponible. Pour saisir où ce problème d'attention prend une nouvelle dimension, il faut revenir à cette histoire d'offre et de demande. Si on met de côté l'infrastructure et l'énergie que demande Internet, il est théoriquement possible de copier et de diffuser des contenus à l'infini. La production au sens classique du terme n'a plus aucun sens dans une économie numérique. Dès lors, la seule manière pour un contenu d'avoir de la valeur, c'est d'être visible. Dans l'économie classique, la publicité offrait une valeur ajoutée à l'objet ou au service vendu. L'assurance en fait d'en vendre un grand nombre. Dans une économie numérique, la visibilité est presque la seule source de valeur pour un contenu et la valeur d'un poste ou d'un compte se mesure en permanence au nombre de likes, de vues ou d'abonnements. La production en elle-même ne mène même plus à la valeur.
Et tout ce que tu viens de dire, ça vaut pour les gens qui produisent des contenus et qui les diffusent sur les réseaux. Mais comment ça se passe pour les réseaux eux-mêmes ?
Eh bien, leur position à eux, elle est encore plus ambiguë, puisqu'ils sont responsables de tout ce qui passe par eux pour exister. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel contenu vous a été proposé par cette plateforme ? Qu'est-ce qui fait que cette publicité vous a été proposée sur cette page ou devant cette vidéo ? Le fonctionnement interne de ces systèmes sont opaques, et ce sont pourtant eux qui conditionnent ce à quoi nous sommes en permanence exposés. Ces plateformes vont faire leur maximum pour fixer notre attention afin de nous inciter à adopter un comportement souhaité. Ici encore, la valeur du service offert par les réseaux sociaux et les géants du web va se mesurer à leur capacité à capter notre attention, pas à produire quelque chose. Il serait donc bon de ne pas perdre de vue qu'en tant que consommateur, utilisateur, usager ou même électeur, que notre capacité d'attention, est un vecteur de valeur. Essayez de vous souvenir de cela la prochaine fois que vous ne saurez pas résister à l'appel de la notification.
Merci Lucas pour ta chronique. J'ai une petite question. De ce que je crois comprendre, les plateformes cherchent à nous captiver sans créer.
C'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une fonction de mise en réseau, de mise en relation de contenu avec des gens qui veulent consommer ces contenus. Mais voilà, le souci c'est qu'ils le font de manière bien souvent déloyale et intéressée.
Théo.
Et c'était d'ailleurs pour ça qu'il y avait un gros débat au sujet de l'article 13 qui est passé qui a été étudié au niveau européen.
Alors article 13 qui a été voté, article 50 quelque chose, en fait il a été remodelé mais on le connaît sous le terme article 13.
Il est passé il me semble, ouais. Et qui parlait du droit d'auteur en fait, notamment sur le numérique et comment en fait les médias auraient souhaité une rémunération parce qu'ils produisaient des contenus pour les réseaux sociaux sociaux, mais si les personnes ne cliquaient pas, ils n'étaient pas rémunérés. Donc maintenant, l'article 13, qui est maintenant 50 quelque chose, prévoit qu'ils soient rémunérés.
Dany ?
Non, j'ai l'impression de me répéter d'émission en émission, mais excuse-moi pour le côté pratico-pratique, mais j'ai encore l'impression que c'est des histoires de gros sous. C'est-à-dire que plus t'as de sous à investir dans l'achat de temps de cerveau, comme Florian le disait, c'est ça, hein, plus tu peux en disposer, justement, en acheter, donc en proposer, et puis proposer ta pub à tout le monde, quoi. Et effectivement, sans valeur ajoutée, quoi. Il n'y a pas de création de contenu, quoi.
Il n'y a pas de création de contenu, mais elles font leur beurre sur notre contenu. C'est ce que je trouve assez aberrant. Mais du coup, justement, est-ce que c'est pas un risque pour les contenus produits par les utilisateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation des contenus, justement, pour correspondre le plus à cette économie de l'attention?
Si, bien sûr, parce que du coup, en fonction de leur cahier des charges, chaque plateforme a un cahier des charges et va mettre en valeur un certain type de contenu qui, je sais pas moi, correspond à sa marque. Et donc, on va vers, à terme, une uniformisation progressive de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et même en faisant en sorte que ce soit nous qui produisons le contenu et pas, je sais pas moi, des gens qui sont rémunérés et qui ont une ligne éditoriale et une déontologie, on arrive en fait à une baisse progressive de la qualité. Enfin, on risque à terme de voir non seulement la même chose, mais aussi des choses qui sont relativement soit médiocres, soit pas ouf. Enfin, je sais pas.
Théo ?
Oui, c'est ce qui se passe à peu près sur YouTube en ce moment. Voilà.
Ouais, l'uniformisation des contenus sur YouTube, c'est vrai que c'est quelque chose. Denis ?
Oui, puis ça s'applique à, tu disais, tout un tas de marchés. Typiquement, si tu prends la scène jeux vidéo, dont je vais parler tout à l'heure, mais typiquement, les jeux qui reçoivent le plus d'attention, c'est les plus gros jeux et qui...
ce qu'on appelle les AAA.
Les AAA, les fameux AAA. Et en plus, tu regarderas dans la gamme de AAA qu'on propose ces dernières années, il y a une forme d'uniformisation qui se crée et qui fait que certains joueurs s'enlacent et puis vont plutôt vers la scène indé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
La définition de AAA, c'est justement c'est un jeu qui met au moins autant d'argent dans sa publicité que dans sa création. Donc ça vous donne en fait une idée de la masse d'argent que ça peut brasser pour qu'un gros jeu se puisse être dit AAA.
Florian ?
Ouais, il y a un truc aussi dans le monde du jeu vidéo, je sais pas si tu as prévu d'en parler dans ta chronique, mais qui est un peu dommageable, c'est l'arrivée des pay-to-win un peu avec le tout sur mobile. Donc pay-to-win, c'est des jeux qui sont à la base gratuits, et puis en fait, ce qu'on va vous faire acheter, c'est du contenu à l'intérieur, et donc pour rester un peu bon dans ces jeux-là, en général, il faut payer, puis on se rend pas compte, à la base, c'était gratuit, et à la fin, on a mis beaucoup plus d'argent que dans un bon jeu qui aurait pu coûter 10€ sur une autre plateforme, quoi.
Je vois que nos chroniqueurs sont impatients de réagir à ça, donc du coup, je pense qu'on va passer à la chronique de Denis sans plus tarder, parce que pour réagir sur les pay to win et sur l'attention dans le jeu vidéo, Denis, c'est à toi, et aujourd'hui tu vas faire le lien entre l'économie de l'attention et le jeu vidéo. Denis.
Absolument, l'économie de l'attention, c'est pas ce que je viens de faire. Ça s'inscrit comme pratique économique de rationalisation de l'attention, et puis ça devient une ressource à exploiter, à optimiser, à dompter. Et si l'attention est une ressource si rare, comment peut-on se dire que c'est le cas dans le jeu vidéo ? En effet, quand on joue, on est souvent captivé et on ressent cette impression d'investir intégralement notre attention dans une seule et unique tâche. Ce sentiment naturel cache pourtant bien des mécaniques. Et je me permets de reprendre une définition de Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste et neuropsychologue français. Ce dernier explique dans son célèbre écrit « Les quatre piliers de l'apprentissage » que l'attention, je cite, est le mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et d'en moduler le traitement. Pour les trois autres piliers de l'apprentissage, je vous invite fortement à lire cet article, un article paru en 2013, trouvable sur le net gratuitement. Mais vous voyez, je digresse deux secondes, c'est que mon attention flanche parce qu'elle élimine des éléments qui ne lui sont pas nécessaires pour mieux se concentrer sur du superflu.
Oui, et un peu de discipline, voyons. On n'a toujours pas parlé de jeux vidéo. Hein.
Oui, et je termine ma définition. Des formations professionnelles obligent. L'attention se décompose donc en trois systèmes attentionnels, l'alerte, l'orientation et le contrôle exécutif. Le premier désigne la limite de votre attention. On est alerte lorsque quelque chose attire notre attention. Le deuxième système, l'orientation, montre qu'il y a un besoin de canaliser l'attention, au risque de la porter sur des choses peu pertinentes. Et enfin, le contrôle exécutif, dont on parlera moins, fait que dans notre développement, on s'inhibe de stratégies adéquates. Par exemple, manger à table plutôt que manger dans le canapé.
C'est vraiment sympa ce que tu nous racontes, mais le jeu vidéo, du coup ?
Oui, donc pour faire simple, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, votre attention est entièrement focalisée dessus parce que ce dernier vous rend alerte en permanence ou de manière régulière. De plus, comme vous n'avez que ça dans les yeux, il y a orientation de l'attention. Certaines des études mêlant psychologie cognitive et neurosciences sont menées à plusieurs règles au sein du jeu vidéo. Par exemple, dans un jeu à monde ouvert, ne pas dépasser 45 secondes sans interaction lors d'un déplacement d'un point A à un point B, par risque de perdre une partie de l'attention du joueur, et donc il ait moins envie de continuer à jouer. Et autre exemple beaucoup plus connu, le fameux cas Fortnite. Si autant de gens y sont accros, c'est grâce ou à cause de la psychologue attitrée d'Epic Games, Celia Odent, qui a écrit un livre, The Gamer's Brain, How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. Bon courage pour la traduction. Alors attention, pas question de jeter la pierre, cette dame ne fait que son travail d'application des neurosciences. Hein. Mais ses armes, c'est d'abord expliquer aux développeurs le fonctionnement du cerveau humain, avec entre autres notions celles précédemment abordées. Et ensuite, l'emploi de l'UX, dont Florian a déjà parlé, l'user experience, un terme qui est décliné en plusieurs autres termes, tels que l'affordance, la capacité visuelle d'un objet à exprimer son utilité dans un jeu vidéo, l'usability, la facilité d'utilisation de l'objet en situation, toujours dans le jeu vidéo, et l'engageability, la facilité à ce qu'un joueur s'engage à jouer, ce qui fait appel à l'attention. Tout est pensé pour garder l'attention du joueur, en facilitant les procédés. Pour faire simple, plus c'est simple, plus ça captive. De là à dire que plus ça bête, mieux ça marche, il n'y a qu'un pas. C'est d'ailleurs la simplicité du mode Battle Royale de Fortnite qui a contribué à son succès. Une fois les quelques interactions à intégrer pour jouer sereinement au jeu, une seule règle, être le dernier survivant. Et tout captive, taille des espaces de jeu, les maps, le design des armes, le design des personnages, jusqu'au logo indiquant l'accumulation des ressources, parce qu'il faut faire simple mais logique. Mais j'en ai déjà beaucoup dit et pourtant si peu, on retiendra que jouer requiert un peu de recul réflexif aujourd'hui pour se demander si ce à quoi on joue n'est pas qu'une application de procédés neuropsychologiques qui nous mène par le bout du nez. Alors lâchez Candy Crush et autres phone games abusant de ces mécaniques, réfléchissez à tout ça et jouez consciemment. Et je rajouterai même une petite phrase d'Anthony Hawkins, un célèbre consultant qui disait « Les choses sur lesquelles vous concentrez votre attention finissent par se réaliser ».
Merci Denis pour ta chronique. Florian voulait réagir, je crois.
Oui, je retweet encore, mais je suis pas tout à fait d'accord sur certaines questions. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Celia Odent, la pauvre, elle en prend plein la gueule. En plus, elle travaille même plus chez Epic Games. Mais c'est vrai, oui, et c'est vrai, et c'est pas un secret. Ça fait très longtemps, il y a des psychologues, donc psychologues, pas forcément neuroscientifiques, mais psychologues qui travaillent dans le monde du jeu vidéo. Il y en avait déjà à l'époque de Halo 2, donc Halo 2, non. Ça devait être en 2004, j'en sais rien, qui font de la recherche utilisateur pour comprendre qu'est-ce qui plaît aux utilisateurs, comment on fait pour que ça marche mieux et qu'ils apprécient plus jouer. Donc faire de l'UX, de l'user experience, de l'expérience utilisateur, c'est pas forcément manipuler les gens, ça peut vite le devenir parce que bah, forcément quand il y a des histoires de gros sous derrière et qu'on n'a pas beaucoup d'éthique, et je ne jette pas du tout la pierre sur Sally O'Donnell parce que je pense pas qu'elle ait voulu vendre la tête de tous les joueurs.
Faut pas jeter la pierre, t'as raison.
Mais je pense qu'il faut bien distinguer quand même ces deux choses-là où il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation et de la malhonnêteté et quelque chose qui peut être vraiment de l'ordre du confort d'utilisation et du plaisir de jeu. Donc voilà, je vous redirige peut-être vers un article du Monde qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelait Plonger dans l'UX, comment on nous manipule quand on joue aux jeux vidéo, et qui finalement prend cette perspective inverse à la fin de dire en fait ça aurait pu être juste sympa et améliorer notre expérience, mais au final un petit peu quand même on se fout de notre gueule.
Ok, de l'UX éthique peut-être, Denis ?
Non mais je vais dire, oui, tu fais très bien de nuancer, bien sûr, j'ai bien précisé, il ne faut pas jeter la pierre, c'est le travail de cette dame, enfin c'était, parce qu'effectivement...
Elle est consultante et elle fait beaucoup de conférences.
Ah, elle est consultante maintenant, oui. Bon, toujours est-il que voilà, j'ai pris le cas Fortnite parce qu'on est sur une fine limite, hein, on est vraiment sur la fine limite entre l'abus et puis la simple utilisation de l'UX qu'on retrouve dans un paquet de jeux, un paquet de AAA notamment, et puis comme tu le remarqueras, je n'ai pas parlé plus que ça de Candy Crush et compagnie, enfin tous ces phone games, tous ces jeux téléphones qui abusent des pubs pour vous faire raquer.
Florian.
Cela dit, je vous redirige vers une mini-série web qui est sur Arte, je crois, Arte Éducation, qui s'appelle Dopamine, qui a été
vachement
coproduite par l'endroit où je travaille. Bon, un peu de pub. Oui, c'est pas de l'économie de l'attention, je fais un peu de pub, je suis désolé.
Je savais même pas que Florian avait participé à sa création.
On me jette la pierre, non, pas du tout. J'ai pas participé et je suis pas toujours d'accord sur ce qui est dit, mais c'est pas mal, c'est une petite introduction sur tout ça et je vous conseille d'aller la voir, c'est des petits épisodes de 3 minutes, c'est assez facile à écouter.
Théo, un dernier mot ?
Ouais, non, c'était juste pour dire que moi, là où je voyais dans les jeux vidéo le plus la captation d'attention, c'était évidemment sur les jeux de sur les portables, mais surtout les espèces de gacha games là où qui imitent le format des machines là qui vendent des petites capsules de personnages, en gros où ça joue vachement avec à capter l'attention de la personne, à proposer un truc assez sympa, assez ludique, mais au final c'est un système de paris où les joueurs vont essayer de faire tourner la boîte jusqu'à de payer, de faire tourner la boîte jusqu'à avoir les personnages qu'ils voulaient. Mais bon, je pense que c'est dommage. C'est la fin de l'émission, on n'aura pas le temps d'en parler.
Alors, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et évidemment, avant de se quitter, on va passer à l'agenda des événements numériques de la semaine.
Oups.
C'est un beau jingle, ça. On la garde. Florian, on la garde, celle-là. C'est un très beau jingle.
Alors que le matériel est cassé ici dans le studio de Radio Pulsar. Alors,
Alex est électrocuté.
Après avoir réparé le matériel de Radio Pulsar, je vous invite ce samedi 9 novembre à l'espace Mendes France, car l'espace Mendes France vous propose une conférence intitulée « Intelligence artificielle et intelligence humaine dans le système éducatif ». Alors, c'est pas animé par Florian et Pulsaria, mais par Luis Galindo, expert en technologie numérique éducative. Le 13 novembre, le SPN vous invite à un café techno autour du Futuroscope. On devrait y apprendre comment le parc utilise le numérique pour accompagner ses visiteurs. Ça se passe à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Et pour finir, je vous promets, c'est la dernière fois que j'en parle, mais l'exposition mise à jour « Apprendre à l'ère du numérique », c'est bien et c'est jusqu'au 17 novembre. Pour réécouter l'émission et écouter les précédentes, sachez que Spam est maintenant disponible en podcast sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les bonnes plateformes de podcast. On vous remercie de votre attention pour cette émission et on vous dit à la semaine prochaine, 18h sur Radio Pulsar. Salut !
Salut !
Salut !
Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Faut vraiment rien avoir à foutre.